La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans la danse des mots, bienvenue chez les boiteux, bienvenue chez les gorilles. Pourquoi chez les boiteux? Parce que nous allons parler d'un livre qui fait partie d'un ensemble de romans sous le titre « La dynastie des boiteux ». Et pourquoi les gorilles? Parce qu'on voit le magnifique profil d'un de ces animaux sur ce livre signé de Bessera qui vient de sortir aux éditions du Serpent à plumes. Bonjour Bessera.
Bonjour.
Alors, il est question dans votre livre Zoonomia, puisque c'est le titre de ce premier volume d'une série, il est question de naturaliser et d'empailler. Empailleur ou empaillé, il semble qu'il n'y ait pas d'autre rôle, dites-vous à un moment. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Et est-ce que vraiment vous pensez qu'il faut choisir entre la dynastie des empailleurs et celle des empaillés?
Bah, c'est du moins ce que pense Johan, qui est le héros de Zoonomia. C'est un garçon qui a 15 ans quand il arrive à Paris, il arrive de la Réunion où il est né. Et c'est un garçon qui n'a pas été reconnu par son père, c'est un garçon dont la mère est mulâtresse. Et donc il rêverait de connaître ce père à Paris et de devenir aventurier comme lui. Parce que le père de Johan est un aventurier à moitié américain, à moitié breton. Et surtout, il admire beaucoup Burton, Livingstone. Donc, il aimerait, comme eux, aller courir les jungles en Afrique et puis écrire de beaux livres dont on parlerait dans les salons mondains. Seulement, quand on est un fils de mulâtresse de la Réunion et un enfant qui n'a pas été reconnu, on ne devient pas aventurier a priori parce qu'on n'a pas le bon pédigré.
On n'a pas le bon pédigré, mais ça nous donne un œil, ou ça lui donne un œil en tout cas, pour regarder cette société de son point de vue, qui est un peu le point de vue du zombie, parce que il a une sorte de fragilité par rapport à son existence. Mm-hmm. Vous le dites vous-même, il n'a pas été reconnu par son père, il n'est pas si beau, il n'est pas très grand, il perd ses cheveux, il boite, il n'est pas, comme on dit, favorisé par la nature, et il se pose des questions sur sa propre existence, son être au monde d'une certaine façon. Est-ce que c'est à partir de cette interstice, on peut dire, entre divers ordres de vivants, qu'il regarde le monde qui s'offre à lui?
Bah, disons que c'est le point de vue du zombie, mais c'est surtout le point de vue du boiteux. Et c'est ce qui m'intéresse chez lui, c'est que malgré tout, en dépit de tout, il veut absolument accomplir ce rêve qui est absolument impossible. Et Zoonomia, c'est un peu l'histoire de la fabrication de ce mensonge qui lui fait petit à petit être recruté dans la galerie Perrin, où justement il va s'exercer à la taxidermie et être confronté à des animaux et des hommes empaillés. Et il va y voir une espèce de miroir parce qu'il a toujours en tête l'idée que lui-même ne devrait pas être du côté de ceux qui regardent, mais du côté de ceux qui sont dans la cage, du côté de ceux qui sont regardés. Et il va se battre contre ça pendant tout le livre pour accomplir ce rêve.
Alors, est-ce que vous accepteriez, Bessera, de nous lire un extrait, justement, de cette dynastie des boiteux?
Oui, je vais vous lire un extrait où, justement, il vient d'avoir été recruté dans les galeries Perrin, où on expose des animaux empaillés et où, le dimanche, les enfants et les femmes et les hommes viennent regarder. Tu regardais ce beau monde expirer. Tandis que Juliette se désarticulait le cou pour admirer un couple de libellules, tu découvris, assis entre deux majestueux volatiles aux ailes déployées, un nouvel homme empaillé. Pas plus haut qu'un hottentot et dénué de lance, ce nabo était très âgé et ne portait qu'une grande culotte blanche en lambeaux. Mathusalem barbu de neige, il était accroupi sur des gales sèches. Recouvert d'une cataracte presque totale, ses yeux semblaient avoir été miel et bleu. Troublé, tu le regardais par en dessous, ignorant les raisons, sûrement excellentes, pour lesquelles un homme blanc purgeait son éternité dans une cage de musée. De quoi était-il puni? Son visage flasque exprimait une détresse. Un long moment, tu fixas ses lucarnes amorphes avec une sorte d'attendrissement. Ce spécimen a plus de 100 ans, songeas-tu, saisi aussi par les deux oiseaux qui l'encadraient. Or, le regard de l'empaillé supposé s'embruma soudain de nuages. Sa mâchoire inférieure commença à s'assouplir et ses lèvres crayeuses s'étirèrent en un sourire mélancolique. « Malheur à moi, » dit-il d'une voix grumeleuse. parce que je suis réduit à cueillir des raisins à la fin de l'automne, après que la vendange a été faite.
Un extrait de Vivaldi qui va bien avec votre roman Bessera, puisqu'il fait partie de la liste de morceaux que vous avez vous-même établi et qu'on peut retrouver si on a un compte Spotify en tapant l'adresse Bessera-Zoonomia. Mais vous nous avez laissé haletant dans cette galerie devant cette espèce de vieux nabo qui est empaillé et qui tout d'un coup s'anime. Est-ce que votre roman est un roman fantastique? Est-ce qu'il flirte avec le fantastique?
Oui, il flirte avec le fantastique parce que quand on va dans des musées d'histoire naturelle, on retrouve assez rarement non seulement des hommes blancs empaillés dans les cages, mais en plus des hommes qui s'animent et qui en l'occurrence sont des nains. Alors là, il s'agit d'un personnage qui est récurrent dans toute la série, qui s'appelle Miché, qui est une espèce de prophète, qui se vante d'avoir écrit quelques versets dans l'Ancien Testament.
Oui, vous dites que c'est un prophète pas très connu.
Non, ben c'est un prophète tout à fait périphérique de l'Ancien Testament.
Un prophète très mineur.
Voilà.
Donc, il revient et s'anime parfois. Tout votre roman, en fait, est traversé par ce fantasme du personnage empaillé qui va s'animer. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver les frontières entre l'animé et l'inanimé, entre l'homme et l'objet, entre l'homme et l'animal. C'est un roman des frontières ?
C'est un roman qui les questionne, les frontières, parce qu'elles sont floues, elles sont ténues, elles sont mouvantes, et puis on doit toujours les questionner. Et ce qui est intéressant aussi, la frontière entre l'animé et l'inanimé, c'est ces espèces de mises en scène qui sont faites dans les galeries Perrin, où les animaux empaillés sont présentés en situation, et ces situations sont des représentations de l'état de l'esprit de l'époque. Et Johan passe par cette formation-là avant de rejoindre le Gabon. C'est son apprentissage. Et au Gabon, il se trouve dans un monde parfaitement animé. Et là, il cherche absolument à rencontrer le gorille, ce qui ferait de lui le premier homme blanc à avoir chassé le gorille. Et ce serait la reconnaissance ultime pour lui.
Donc, avant d'en venir au Gabon, il est à Paris. On est en 1848. Il arrive peu avant cette révolution de 1848. Et quand il travaille aux Galeries Perrin, il voit donc ces mises en scène des animaux. Comme si. Et on est toujours dans le comme si. Alors, quel est votre rapport, justement, avec cette peur, d'une certaine façon, que l'homme devienne un animal, que l'animal devienne un homme, c'est-à-dire qu'on passe la frontière? On passe la ligne, comme on dit.
Les êtres vivants sont figés dans ces cages, mais ils s'ennuient dans ces cages. Donc, ils ont une espèce de vie parallèle dans des éclipses où ils peuvent s'échapper. Il y a par exemple un hottentot qui est représenté entre une girafe et un phacochère qui porte une lance, qui semble inanimé, et pourtant ce hottentot s'éclipse dans un autre monde où il est acteur et où il se prépare à se présenter devant une scène, paré de cette lance, en pensant qu'il est comédien, alors que les gens viennent le voir pour se moquer de lui. Et c'est ce que ressent profondément Johan lorsqu'il se trouve face à ces êtres empaillés, apparemment inanimés. Il a cette espèce de peur de se retrouver lui-même en cage. Et alors, le paroxysme est atteint lorsqu'il se retrouve à devoir empailler lui-même un cochon, toujours dans la phase d'apprentissage de son métier d'empailleur, de taxidermiste.
Et en fait, qu'est-ce qui fait le plus peur là-dedans? C'est la façon dont on se projette dans un monde qu'on essaye de comprendre. C'est l'histoire de la conception du monde. Vous dites à un autre moment, la société ne devait-elle pas être un reflet de la nature? Et la nature n'est-elle pas façonnée par Dieu? L'ordre des hommes, fut-il appelé républicain, lui semblait par principe juste et bien fondé, comme l'ordre des oiseaux. Alors, pour parler du monde de votre roman, vous utilisez ce mot d'ordre, qui est un mot du XVIIIe siècle, ou en tout cas qui a ce sens particulier au XVIIIe siècle, où on essaye d'analyser les fleurs, les arbres, les singes, les chiens, etc., en créant des ordres et des sous-ordres. C'est-à-dire que on invente des tiroirs et on met tout ça dans une espèce d'armoire extrêmement bien rangée où on va se repérer.
Ben, je pensais à ça et aux classifications aussi du 19e siècle. Et le titre Zoonomia vient d'ailleurs d'un bouquin de Erasmus Darwin qui est le grand-père de Charles Darwin. Et Zoonomia, ça veut dire les lois de la vie organique. Et le passage que vous avez cité est le reflet de ce que pense Juliette. Juliette qui est la belle-mère de Johann et dont il tombe amoureux. Et c'est Juliette justement qui l'emmène aux Galeries Pèlerins. Et elle a besoin de croire en cet ordre. Elle a besoin que les choses soient bien rangées à leur place pour se sentir en sécurité. Mais cette sécurité est remise en question justement en février 1848 par le changement de régime, la révolution de 1848 qui d'une certaine manière remet tout ça en question.
Alors c'est quand on remet l'ordre social en question, quand il tremble sur ses bases, qu'on peut s'interroger sur l'ordre humain. Est-ce que la politique amène à une espèce d'anthropologie, Bessora?
Johann se trouve pris, embringué dans un défilé qui va à la colonne de Juillet. Et alors il est très mal à l'aise parce qu'il n'y croit pas, lui, à la révolution. Il ne croit pas que les ordres puissent être renversés. Parce que lui-même est né en 1831 après une autre révolution qui n'a pas réellement renversé les ordres. Donc son but, c'est pas de renverser les ordres, c'est de se trouver à la meilleure place possible dans le meilleur des catalogues. Et cette meilleure place possible, c'est de devenir cet aventurier qui, le premier, aura chassé et rencontré le gorille.
Alors Bessora, votre roman, il se place au milieu du 19e siècle, puisqu'il commence en 1846. À la fin du 19e siècle, ou juste un petit peu plus tard, c'est là qu'on a vu justement cette interrogation se disséminer un petit peu partout. C'est l'époque où on invente le personnage de Frankenstein. Et peu après, au début du 20e siècle, on aura un romancier comme Raymond Roussel, avec Locus Solus, qui évoque justement des personnages inanimés qui, tout d'un coup, grâce à une sorte de mécanique extrêmement perfectionnée, vont, comme des robots, s'animer. C'est un fantasme qui est très représentatif de ce 19e siècle.
Zoonomia se termine au début du 20e siècle, avec un Johann qui a été très peu concerné par tous les mouvements révolutionnaires et politiques, et il ne s'est pas posé de la question de l'animation. Ce qu'il a voulu absolument, c'est établir une frontière entre les animaux et les hommes blancs, en mettant les hommes noirs du côté des animaux. Et ce qu'il a voulu absolument, c'est être du bon côté de la cage. Il est inspiré d'un personnage qui a réellement existé, qui s'appelle Paul Belloni du Chaillut, qui est un aventurier, qui a à peu près le même parcours que je décris dans
et,
le roman.
Et dont vous avez donné le nom à la mère, justement, de Johann.
Oui, Belloni est le nom du vrai personnage. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Paul Belloni du Chaillut a inspiré la création de Tarzan à Edgar Rice Burroughs.
Local.
When Dogs Cry, c'est Prince qu'on entend évoquer cette scène extrêmement pathétique. Je ne sais pas si les chiens pleurent avec des larmes de miel, mais des larmes de miel, souvent, on en voit dans votre roman, Bessora. Le miel est important. On sue avec du miel, on pleure avec du miel, et ça met un peu de sucre dans une vie amère.
On vend du miel, on achète du miel.
On peut le vendre, on peut l'acheter, ça c'est sûr.
Ça fait partie des trocs.
Et on peut écouter donc votre roman, ou en tout cas un certain nombre de morceaux que vous avez mis donc sur cette plateforme Spotify. Vous avez tout de suite eu l'idée de faire une liste musicale qui était le pendant de votre roman.
C'était une idée du Serpent à plumes, donc de Pierre Biziou et de Xavier Belle-Rose,
oui, de mes votre éditeurs. Éditeur,
oui. Alors au début, ça m'a un peu intriguée parce qu'il me semblait qu'un roman était sa propre bande sonore. Enfin, un roman, on l'entend quand on le lit, il a sa propre musique. Et je me suis prêtée au jeu en essayant de traduire les différents moments du roman et puis les différents sentiments de Johan, qui sont à la fois de la rage, de la mélancolie. Enfin, toute une palette de sentiments comme ça que j'ai essayé de retranscrire.
Donc, ça fait une liste très contrastée.
Ah,
on a entendu
absolument.
Du Vivaldi et maintenant du Prince. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce que parfois c'est en relation avec une scène particulière, avec un personnage particulier ? Avec Johan, on l'a bien compris, mais il y en a d'autres. Il y a son père qui fait penser au père un peu à Alexandre Dumas, d'ailleurs, que vous citez
oui.
très souvent. Ce père qui est un colosse, justement, qui est le contraire de Johan.
Oui, oui. Il y a du Sibelius, il y a la valse triste de Sibelius, par exemple, que je trouve assez mélancolique et qui reflète assez bien l'espèce d'amertume un peu douce que Johan peut avoir par rapport à son père. Il y a aussi du Stromae avec beaucoup de force qui, je trouve, reflète les moments où il progresse dans la forêt gabonaise. Il y a aussi des chants fans, donc de Lambaréné, qui sont mêlés à du Bach et qui traduisent assez bien, je trouve, aussi des scènes de chasse aux gorilles, lorsqu'on piste le gorille.
Des chants fans qui sont mêlés à du Bach parce que c'est un souvenir de Schweitzer qui jouait Bach à Lambaréné.
C'est ça. Il y a eu un album qui s'appelait Lambaréna.
Oui. Lambaréné étant cet hôpital qui a été fondé par Albert Schweitzer au Gabon, et Schweitzer était un pianiste amateur, paraît-il, d'excellent niveau. Et on raconte que tous les soirs, une fois son travail fini, il se mettait au piano pour jouer.
En tout cas, des compositeurs, on en fait des morceaux qui, moi, je trouve, fonctionnent très bien et sont très évocateurs.
Donc on peut écouter de la musique tout en lisant votre livre et tout en se mettant peut-être dans la peau du narrateur ou de la narratrice, parce que ça aussi c'est quelque chose de tout à fait intéressant. C'est pas un roman du jeu, mais c'est un roman du tu.
Oui, alors la question du point de vue, ça, c'est toujours une question très importante pour moi lorsque j'écris, parce que ça change absolument la composition du roman, la perception, ça change absolument tout. Et là, c'est écrit au tu, parce que c'est la matriarche de toute la dynastie, qui s'appelle Jane, qui raconte en fait l'histoire de son descendant, et elle le raconte d'outre-tombe.
Et vous avez eu cette idée tout de suite ?
Non, j'ai pas eu cette idée tout de suite. J'ai écrit plusieurs versions de ce texte-là. Je suis sur la série depuis à peu près 10 ans. Donc je me suis beaucoup questionnée, j'ai beaucoup expérimenté. Et au départ, c'était écrit au jeu. C'est-à-dire que Johan s'exprimait à la première personne.
Mais et qu'il en était de même pour les autres tomes de la série, que chaque fois il y avait un personnage central qui parlait pour lui en tant que tel.
Au départ, c'était des jeux, simplement des jeux. Et puis finalement, c'est la matriarche qui parle pour tout le monde. Et lorsque c'était écrit au jeu, je trouvais que Zonomia était trop dure, parce que Johan est un personnage qui est un peu complexe, qui peut avoir des côtés assez détestables, pour lequel on peut éprouver de l'empathie aussi. Mais il me semblait que l'empathie était plus forte lorsque c'était l'ancêtre qui parlait.
Et quand vous dites que vous retravaillez votre texte, il faut tout changer quand vous passez du jeu au tu.
Ben oui, il faut tout changer.
Faut tout changer. Est-ce que ça change autre chose que le point de vue ? Est-ce que ça change l'écriture même ?
Ben ça change le ton, ça change l'écriture, ça change le style, ça change tout. Ça fait partie de mes tics d'écrivain ou d'écrivaine. C'est la question de la voix. Quand je passe d'un roman à l'autre, je peux changer de voix selon le personnage qui parle. J'ai tendance à prendre de la distance, c'est-à-dire à me tuer pour laisser parler une voix narrative qui peut être un personnage très éloigné de moi ou proche.
Et quand vous dites une voix, ça a quelque chose de concret. Pour vous, un roman, un texte que vous écrivez, il a une sonorité, il a un grain ?
Bah, en tout cas, je l'entends. En tout cas, je l'entends et je lis à haute voix ou je me fais lire des passages pour en prendre la mesure et sentir s'ils sont à peu près mûrs ou pas. Parce que je ne sais pas si un texte est jamais mûr.
Vous lisez ou vous vous faites lire?
Oui.
Et les deux expériences sont différentes?
Ah bah complètement, oui. Quand quelqu'un d'autre vous lit, vous prenez encore plus de distance.
Donc c'est pas pareil du tout. Si
non,
vous lisez, vous êtes encore dedans.
Ben, sauf lorsque c'est un texte que j'ai oublié, parce que j'ai cette chance et ce malheur, j'oublie très vite ce que j'écris. Donc
ah,
c'est
ça
parfois
vous permet
difficile.
De continuer, oui.
C'est, ben, ça me permet de continuer, mais du coup c'est difficile lorsque vous venez voir Yvan Amar et que vous avez écrit un bouquin de 432 pages de vous rappeler exactement de tout.
Oui, mais heureusement que je suis là pour mettre les points sur les i. Et de toute façon, ce livre tel qu'on le lit est environné de toute une littérature. Par exemple, la jeune et charmante belle-mère de Johan qu'il va rencontrer, dont il s'éprend, et c'est tout à fait réciproque, et il reste à la lisière de cette...
Malheureusement, Johan aurait bien aimé perdre sa virginité avec Juliette, mais...
Oui, elle aussi, hein. Mais elle lit La femme de 30 ans, mais elle lit Le comte de Monte Cristo. Donc, il y a toute un univers littéraire qui berce votre texte.
Oui. Oui, mais j'aime bien donner de la chair à mes personnages, donc qu'ils ne soient pas juste des choses plates, sans consistance. Et la chair de Juliette, c'est que elle est un peu comme Johan, elle est enfermée dans quelque chose, elle est elle-même chosifiée, elle est une espèce de meuble, elle est le meuble de son mari. Donc c'est ce qui les rapproche avec Johan qui ne se sent pas légitime à devenir un aventurier, et Juliette qui n'a pas le droit d'aller boursicoter toute seule, par exemple. Pour ça, elle a besoin d'un mandataire. Et donc, elle a 20 et quelques années, mais elle se sent déjà vieillir, et puis elle est effarée à l'idée de devenir une vieille femme. Vous vous rendez compte, elle a déjà au moins 26 ans.
Ah oui, mais la femme de 30 ans, au début du 19e siècle, on a l'impression que c'est une femme sur le point de se faire.
Mais c'est ça.
Alors Bessora, est-ce que vous accepteriez, puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps, de nous faire une deuxième lecture extraite de ce Zoonomia dans la série La dynastie des boiteux?
Je vais vous lire un passage qui se situe au moment où Johan arrive à New York, parce qu'il voyage beaucoup, donc vous voyagerez beaucoup avec lui. Et il rencontre un aventurier très célèbre. Membre distingué de toutes sortes de clubs, le vice-amiral Harrison Miles Ford Standish s'adonnait au Bourbon, à la collection d'armes et de trophées de chasse, chez lui presque une maladie, moins avancée que la dégénérescence de son cerveau et de ses intestins. Ce vieil explorateur vouait une passion flatulente à l'Afrique et à l'Alaska, territoire malheureusement sous domination russe, alors que les autochtones préféreraient la tutelle américaine. Grand ami des Aléoutes et autres Abyssiniens, Standish détestait depuis toujours le cricket et excellait au polo, une discipline qu'il avait tenté d'introduire en Éthiopie 10 ans plus tôt, avant de se rendre compte que les Éthiopiens l'avaient déjà inventé. Bah, il avait quand même ramené de ce pays quantité de peintures des débuts de l'ère chrétienne, qui dépeignaient des épisodes bibliques. Car il était aussi chrétien que pétomane. Un peu dur d'oreille et l'odorat très amoindri, il ignorait tout de ses ventosités. Tu en eus la primeur, tu en étais effaré. Émanation d'un aventurier que la vieillesse n'avait pas épargné. Devenir vieux et gâteux quand on était explorateur? La salle d'armes embaumait de cette odeur de vieille peau et de paix. Elle était pourtant le lieu plaisant où le vieil homme donnait ses réceptions, recrutait ses employés et recevait ses amis et les amis de ses amis. Tu faisais partie de la dernière catégorie.
Merci beaucoup, Bessora. Alors, encore une question extrêmement rapide. Vient de sortir ce premier tome Zoonomia de toute une série, La dynastie des boiteux. Dès le début, vous aviez décidé qu'il y aurait 4 tomes, 4 moments, 4 personnages importants?
Non, au début, j'avais un livre monstre que j'ai dû diviser.
Et cette division s'est faite sans douleur? Comment vous avez fait justement pour tomber tout ça?
Je me suis concentrée sur les personnages principaux.
Eh bien écoutez, merci beaucoup.
Ah, vous vouliez du bref, hein? Je suis
non, mais c'est très bien, c'était bref et c'était concis. On va se quitter avec Bobby McFerrin, ce chanteur qui fait également partie de la liste musicale que vous proposez, avec votre livre Zoonomia, paru donc au Serpent à Plumes, et qui est la première étape de cette saga, La dynastie des boiteux.
Merci.
Merci encore Bessora d'avoir été dans cette danse des mots qui vous est présentée par le réseau Canopé et par RFI. Lucie Bouteloup, Marjorie Bertin, Yvan Hamar.